On a des valeurs qui sont héritées de l'histoire, qui nous font différents de toutes les nations du monde.
Le Conseil d'État.
À Paris, au Palais Royal, sa résidence, le Conseil d'État a célébré en présence du Président de la République le 150e anniversaire de sa réorganisation par Bonaparte, alors Premier Consul. La plus vieille institution de France, puisqu'elle se rattache à la Maison du Roi, créée au XIIIe siècle, n'oublie pas ses traditions.
Le Conseil est tenté de penser qu'un pas vide depuis l'époque du Conseil du Roi, il incarne la continuité nationale, mais créé en tant que tel, on vient de l'entendre, par le Premier Consul en 1800, et maintenu et réorganisé dans les années 1870, il se vit encore plus comme le garde-fou de l'esprit républicain. C'est à lui que parviennent les affaires portées devant les tribunaux administratifs. Les recueils de ces arrêts contiennent toute la France, celle des bornages et des vacances d'hiver, mais aussi bien celle des élections et du numérique. Il est chargé de préserver une unité dans le fatras. Il intervient aussi plus en amont. Son rôle est alors de donner une assurance juridique aux textes de loi que prépare le gouvernement. Quand la paix civile est ébranlée, chacun attend davantage encore de lui. L'état d'urgence le place au centre, quand il s'agit par exemple des assignations à résidence. Vendredi, en Assemblée Générale, il a eu à examiner le projet de réforme constitutionnelle dont le gouvernement veut saisir le Congrès, projet à partie double qui vise à introduire l'état d'urgence dans la Constitution et à élargir les possibilités de déchéance de la nationalité. L'avis du Conseil d'État ne sera rendu public qu'au moment où le Conseil des ministres, le 23, discutera à son tour du texte, mais on a d'ores et déjà noté, par exemple sur France Inter ce matin, sur le second point, en tout cas une inflexion de ton du Premier ministre. La tête de l'État écouterait-elle le corps du Conseil avec plus d'attention que d'habitude?
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Marie-Vonne de Saint-Pulgent, bonjour.
Bonjour.
Je suis très impressionné, je vais peut-être balbutier. J'ai en face de moi la présidente d'une des 7 sections, l'un des piliers du palais des lois, du Conseil d'État. Simple citoyen, alors moi j'ai voté. Et après je suis spectateur de mes représentants, mais imaginez que je voudrais faire valoir mes droits devant la justice administrative, j'aurais un espoir qu'un jour ma demande d'appel en appel s'approche de conseillers aussi importants que vous. Il paraît qu'il faut autant de temps que pour les pommes, le temps de pourrir sur les clés.
Pourrir ou mûrir.
Mûrir, hein, vous voilà. Voulez dire.
Écoutez, de moins en moins de temps quand même. De moins en moins de temps, les tribunaux administratifs qui sont en première instance jugent de plus en plus vite. Ils ont énormément d'affaires et de plus en plus, mais ils sont organisés notamment avec les moyens numériques pour aller plus vite. Les cours administratifs d'appel qui examinent la plupart des appels également ont été renforcés récemment et peuvent juger en moins d'un an. Et le Conseil d'État, lui, en juge en moins de 8 mois. Et donc c'est en principe plutôt le juge de cassation, donc c'est la Cour suprême administrative, ça lui arrive d'être saisi en appel, c'est-à-dire sans saisine des cours administratives d'appel, notamment dans les procédures d'urgence, les référés qui vont d'abord devant le tribunal administratif et ensuite devant le Conseil d'État. Alors là, on juge en 48 heures.
C'est ce qui est arrivé pour les écologistes qui, assignés à résidence récemment, ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Et au Conseil d'État, vous avez dit, on se saisit d'urgence.
Oui, c'était un référé, liberté. Ça a été introduit récemment dans notre droit, puisqu'une liberté fondamentale était en cause, l'assignation à résidence portant atteinte à la liberté d'aller et venir. Là, ça a été un peu plus long pour le juger, parce que le Conseil d'État a examiné des questions de principe, et donc s'en est à juger de ça dans la section du contentieux qui est une formation plus solennelle. Et notamment sur la question de savoir s'il y avait un doute sérieux sur la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi sur l'état d'urgence.
Mais alors la formation la plus solennelle, est-ce que ce n'est pas l'Assemblée Générale qui se tient dans la salle de l'Assemblée Générale? Alors le vice-président du Conseil d'État, c'est le premier fonctionnaire de France, il s'assoit dans la salle de l'Assemblée Générale. Je l'avais fait, moi, il y a plus de 20 ans, dans une émission de France Culture, en compagnie de Marceau Long, qui décryptait, c'était un verbe qu'on n'employait pas à l'époque, les fresques un peu énigmatiques qui décorent ce temple au centre du Palais des Lois. Et au-dessus, Marceau Long, de votre bureau, c'est une figure
du vice-président qui cherche des champignons, là,
oui,
très vieux.
C'est ce que l'on disait lorsque j'étais jeune auditeur, ce monsieur qui pense, qui est sans doute l'allégorie de la pensée, je ne sais pas si c'est la pensée républicaine, puisque ceci est de 1920, qui pense au milieu des champs. Mais enfin, je suis entouré aussi, au-dessus de moi, par la justice et par la guerre, qui moins paisible, ne pas moins écologique que ce chercheur de champignons, puisqu'effectivement, on disait lorsque j'étais jeune que c'était le vice-président qui cherchait des champignons.
Le décor est Henri Martin, ici.
Alors, le décor est Henri Martin et est très daté, je veux dire, c'est-à-dire que, évidemment, les spécialistes d'Henri Martin ne m'en voudront pas si je trouve que ça ressemble énormément à la salle de l'ancienne Ligue des communistes à Belgrade. Vous savez, c'est ce style entre-deux-guerres où l'ordre social prévaut dans tous ses aspects, où les femmes même ont l'air de concourir, comme sur la fresque de droite, à l'édification d'un monde meilleur, qui est un peu étonnant.
Ce jeune insolent qui s'exprimait en 1994, c'est François Sureau, qui a été auditeur, puis maître des requêtes, mais n'est pas devenu conseiller d'État, puisqu'il est devenu avocat.
Il nous a quittés avant.
Ouais. Les femmes peuvent contribuer à un monde meilleur, ça a l'air d'étonner Sureau. Mais il y a des femmes au Conseil d'État?
Oui, il y a des femmes au Conseil d'État, il y en a de plus en plus aussi. Tout change, je ne sais pas, quand je suis rentrée dans la maison, il y avait moins de 20% de femmes. Maintenant, dans les jeunes générations, c'est 50-50, et nous avons des promotions qui sortent de l'ENA entièrement féminines. Ça nous est arrivé déjà plusieurs fois.
Alors, vous êtes à peu près 300, il y a un tableau de l'ordre ou un ordre du tableau?
Ah oui, il y a un ordre du tableau. Voilà.
Le tableau de l'ordre, c'est pour les avocats.
Et les avocats.
Alors, vous avez une salle des casiers qui est organisée selon l'ordre du tableau. Alors, plus vous montez, vous, à gauche... Plus vous avancez dans l'ordre du tableau, parce que
oui, alors,
on commence en bas à droite.
Oui, alors le oui, enfin ça
dans
serpent.
Les casiers, dans
on
la
appelait ça
des
le
casiers.
Serpent, le ouais. serpent, puisque ouais. ça dépend des rangées. Mais les femmes arrivées en fin de carrière sont aperçues qu'elles étaient trop petites pour attraper les casiers du haut, et donc elles ont exigé un changement radical qui fait que aujourd'hui les cases ne sont plus rangées dans l'ordre du tableau, mais dans un ordre alphabétique. Je ne sais pas si c'est plus favorable à la taille féminine, mais
je dirais qu'on évoque maintenant pour devenir plus grave, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, à un moment où il n'y avait pas de casier et où le Conseil d'État avait déménagé. Vous allez sans doute identifier sans difficulté cette époque.
Monsieur le Maréchal, le Conseil d'État est une institution bien vivante et moderne, traversée par l'esprit de rénovation que vous voulez donner à cette nation. Dans les temps, permettront de construire l'avenir dans la réflexion. Le Conseil serait heureux de servir en reprenant ce rôle de flambeau des lois pour lequel il a été fait et que le régime parlementaire, par l'envahissement des assemblées et de leurs commissions, avait rejeté dans l'ombre.
Là, il y a le début d'un brouillage. C'est pas une période très facile, n'est-ce pas, pour le Conseil d'État ni pour la France. Il est réfugié à Roya pendant un peu plus d'un an. On est en 1941. Celui qui vient de s'exprimer, recevant le maréchal Pétain, c'est Joseph Barthélémy, garde des Sceaux, qui a été un grand professeur de droit constitutionnel, et qui a eu cette formule qui doit convenir encore à beaucoup de conseillers d'État. La démocratie, c'est une formule d'avant 40, la démocratie doit comprendre qu'elle a à se soumettre à la direction des plus capables. Parce que l'embrouille à mini parlementaire, écoutez...
Oui, enfin, nous récusons absolument cette affirmation. Nous sommes très respectueux du législateur que nous conseillons aujourd'hui, puisque une réforme constitutionnelle de 2008 a permis au Conseil d'État de donner aussi un avis sur les propositions de loi du Parlement. Nous, évidemment, nous sommes des fonctionnaires. Nous ne sommes que des fonctionnaires, donc notre mérite à nous, en dehors de nos qualités indispensables réclamées de tous les fonctionnaires, la neutralité et pour les juges l'impartialité, nous sommes gouvernés par la compétence, c'est vrai. Nous donnons un avis techniquement compétent. Nous sommes des juristes, donc c'est un avis sur le droit.
Mais vous n'auriez pas tendance à penser que les parlementaires ne sont pas aussi laborieux, aussi consciencieux, n'ont pas la parole aussi franche, la parole aussi claire, dénuée d'effets oratoires que les membres du Conseil?
Personnellement, je ne suis pas sûre d'avoir jamais entendu ce discours dans le Conseil d'État actuel. Nous sommes plutôt en dialogue avec le gouvernement. Nous restons avant tout le Conseil du gouvernement. Même si des évolutions récentes nous donnent une meilleure visibilité vis-à-vis du Parlement. Et comme je l'ai dit, nous donnons aussi des avis au Parlement, mais seulement à sa demande. Alors que les avis que le gouvernement recueille auprès du Conseil d'État sur les projets de textes sont obligatoires. Ils sont prévus par des textes textes de niveau très élevé, la Constitution pour les lois.
Mais permettez-moi de parler des conseillers d'État du passé, parce que quand même, quand vous vous adressez à vos collègues, quand vous essayez de produire des conclusions, il vous arrive de dire « vous avez admis que », et quand vous dites « vous avez admis », vous comprenez les gens de 1905, de 1925, de 1945.
Oui, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence, vous entendez ça tous les jours à la radio. Peut-être cet arrêt fera-t-il jurisprudence. Donc, ouais. La jurisprudence qui est publiée, qui fait l'objet d'ailleurs d'anthologies, n'est-ce pas, le célèbre grand arrêt de la jurisprudence administrative, lancé par Marcellon, qu'on vient d'écouter, qui fut vice-président du Conseil d'État, et avant ça, jeune auditeur, aussi, lui aussi. Donc, c'est vrai que nos grands arrêts, qui remontent, dont les plus anciens remontent au 19e siècle, ceux qui ont en particulier affirmé l'autonomie de juge administratif par rapport à l'État, sont toujours cités aujourd'hui quand ils sont encore d'actualité. Enfin, il ne faut pas exagérer, le contentieux évolue très vite et nous faisons aussi des renversements de jurisprudence, notamment dans les arrêts d'assemblée du contentieux qui sont ceux qui sont là pour changer l'opinion du Conseil d'État.
À la marge de l'histoire, Marie-Yvonne de Saint-Pulchon, nous intéresse encore plus la sédimentation, l'épaisseur de l'histoire. Vous parlez de compétences, vous laissez entendre que vous êtes d'une grande indépendance. Il y a eu quand même des vagues de révocation au Conseil d'État. Il y a eu une épuration en 1879, au début de la Troisième République, pour se débarrasser d'un certain nombre de scories bonapartistes.
Oui, c'est en effet un moment très important dans l'histoire du Conseil d'État, 1879, complètement oublié aujourd'hui, où la Nouvelle République, la Jeune République, la Troisième du nom, se débarrasse d'un certain nombre de membres du Conseil d'État, qui étaient en plus nommés sur des critères politiques par des processus politiques, car ils étaient désignés par l'Assemblée nationale. Et on date de ce moment-là l'opinion républicaine majoritaire au Conseil d'État, qui est considérée comme un des corps constitués les plus républicains. Mais la République a fait ce qu'il fallait pour ça.
Enfin, il y a eu l'exception de Vichy, qu'on évoquait tout à l'heure. Comme dit Éric Orsenna dans un livre officiel du Conseil d'État, le Conseil d'État n'a pas apporté sa contribution à la fabrication d'un certain nombre de lois d'exclusion, mais l'a apporté à leur application sans qu'on puisse prouver qu'il ait joué un rôle modérateur, comme c'est bien dit.
C'est tout à fait exact. Et c'est un moment sur lequel il faut méditer parce que nous n'avons pas été à la hauteur. Enfin, je veux dire, l'institution n'a pas été à la hauteur des enjeux de défense des droits fondamentaux et de la République. Elle a d'ailleurs réfléchi sur cette question lors d'un colloque qui a été organisé par le comité d'histoire du Conseil d'État sur les fonctions sous Vichy, et ce colloque rappelle qu'il en est quand même sorti des éléments très importants de la jurisprudence. À partir de 1942, les principes fondamentaux du droit qui permettent au Conseil d'État de prendre un peu plus de distance qu'auparavant avec les textes de Vichy, et surtout le travail de René Cassin sur les droits fondamentaux qui surplombent la loi. À l'époque de 1940, le Conseil d'État est encore tellement respectueux des lois qu'il est respectueux de n'importe quelle loi. Et ça, c'est effectivement, ce n'est pas glorieux dans notre histoire.
Après, il y a eu une épuration après Vichy, mais les révocations sont devenues si rares qu'elles provoquent un écho prolongé. Le ministre de l'information du général de Gaulle dans un communiqué très soviétique lu à la radio en 1960.
Le général de Gaulle, président de la République, a réuni le Conseil des ministres le mercredi 9 novembre. Le ministre des Affaires étrangères a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre du Travail a fait le point de la situation sociale. Le ministre de la Santé publique et de la Population a fait un exposé sur la situation des médecins des hôpitaux publics. Sur le rapport du Premier ministre, il a été décidé de révoquer M. Jacquemet de ses fonctions de secrétaire général de l'administration en Algérie et de le suspendre de ses fonctions de maître des requêtes au Conseil d'État en attendant la décision à intervenir à ce titre qui sera prise incessamment. Le Conseil a d'autre part décidé la nomination de M. Max Moulin, inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire, en remplacement de M. Jacquemet.
Qui a été lui-même réintégré en 1968.
Par décision du Conseil des ministres.
On ne se hasarderait pas à faire pareil aujourd'hui.
Sur des révocations. Ah oui, c'est complètement devenu inusité, les révocations au Conseil d'État. Enfin, c'est tout à fait possible. Nous sommes des fonctionnaires placés donc dans le cadre général des fonctionnaires. Et si il y a atteinte à des principes essentiels, la révocation est tout à fait possible.
Quand un conseiller d'État qui n'a pas de bureau, sauf vous, les présidents de section, est dans la nature, dans la semaine, il lui arrive d'avoir des loisirs musicaux. Même vous qui avez un bureau, d'ailleurs. Vous n'êtes pas président de l'Opéra Comique à Paris ?
Ça m'arrive, oui. Hein, oui.
Tenez, un autre exemple comparable, si je puis me permettre, encore que vous avez été quasiment une professionnelle du piano. Frédéric Thiriez, vous savez, il est président de la Ligue de foot. Vous connaissez le foot de près ?
Oui, je le connais indirectement. Par relation familiale.
Frédéric Thiriez, il a été auditeur, il a été maître des requêtes, il est maintenant avocat au Conseil d'État et à la Cour de Casse. Il lui arrive de s'essayer avec la troupe qu'il anime des tréteaux lyriques au chant.
Moi, je chante Ajax deuxième, roi des Locriens, guerrier valeureux, magnifique et idiot.
Je suis le bouille d'Achille, bouille d'Achille, bouille d'Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, grâce à mon plongeon. J'aurai l'esprit bien tranquille, n'éteins mon talon. Je suis le bouille d'Achille, bouille d'Achille, bouille d'Achille, le grand Myrmidon, le Myrmidon.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le grand Myrmidon.
Sur France Inter.
Nous parlons aujourd'hui du Conseil d'État avec Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, présidente de section au Conseil d'État. Une des règles au Conseil d'État est d'être toujours courtois. Donc, pour que vous puissiez demeurer courtoise, Jacques Sigal a très vite fait prendre le relais de la version Frédéric Thiriez. Par une version de l'Orchestre du Capitole de Toulouse, dirigée par Michel Plasson. Vous n'avez pas de commentaires supplémentaires à faire ?
Non, je dirais qu'Offenbach est un grand musicien, car il résiste à tout.
Très bien. Si on en venait maintenant aux questions chaudes qui font tant parler du Conseil d'État, qui, dans la situation chaotique que nous connaissons, est aussi gardien des libertés publiques et donc observé avec beaucoup d'attention. Alors, le dossier que nous allons prendre d'abord n'est pas apparemment aussi chaud que d'autres. Encore que, il y a un nouveau président de la commune, de la collectivité territoriale en Corse, un autonomiste, oui. Monsieur Simeoni. Mmh. Il y a un nouveau président de l'Assemblée de Corse, un indépendantiste, Monsieur Talamoni. Imaginez, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, ça va vous faire dresser les cheveux sur la tête, que l'Assemblée de Corse veuille tenir une partie de ses séances en Corse.
Ce ne serait pas totalement surprenant, peut-être.
Oui.
Mais vous savez que la langue corse bénéficie d'un régime spécial qui a été fait uniquement pour cette langue-là. Nous avons la République a accepté un traitement particulier de cette langue régionale là. D'ailleurs, quand on dit langue régionale, on ne plaît pas aux Corses. Mmh. Donc, elle est enseignée à l'école notamment.
Donc, c'est pas exactement le même statut qu'a le breton, qui n'est pas encore reconnu.
Le breton n'a pas de statut, comme l'ensemble des langues autres que le français.
Qui n'est pas encore reconnu, puisque la charte européenne sur les langues régionales n'a toujours pas été ratifiée en France.
Non, il y a eu plusieurs interrogations juridiques là-dessus et le Conseil d'État a dû se prononcer à 4 reprises sur la question de la ratification de la langue, de la charte des langues régionales. 2 fois pour indiquer des problèmes de compatibilité avec la Constitution. Et sur ce point, il a été confirmé par une décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré la charte non compatible avec des articles très importants de la Constitution, par exemple sur l'unité du peuple français. Et puis ensuite, donc le gouvernement a pensé qui pouvait dès lors modifier la Constitution pour rendre possible la ratification de la Charte. Et donc, à 2 reprises, en 2013 et 2015, le Conseil d'État a été saisi cette fois-ci d'une proposition de réforme constitutionnelle Et les deux fois, il a émis des objections juridiques fondées d'une part sur la difficulté de rendre cohérent des articles de la Constitution sur l'unité du peuple français que le Conseil constitutionnel avait jugé incompatible avec la charte elle-même, et d'autre part, plus récemment, sur la difficulté juridique toujours à inscrire dans la Constitution des réserves aux principes problématiques de la charte, c'est-à-dire en fait le droit des locuteurs, de ceux qui parlent des langues régionales, de se voir juger et délivrer des actes officiels dans leur langue, avec les principes de la Constitution, avec des réserves disant que cette partie de la charte régionale, on ne l'appliquerait pas. Et donc, les deux fois, l'avis a été défavorable.
Non, mais je vois exposer le corset de l'unité nationale. Néanmoins, les usages peuvent glisser. Tenez, ça, c'est une séance de nuit à l'Assemblée nationale. En 2012, de son banc, un député écologiste, Paul Molac, intervient.
Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Molac.
Merci, Monsieur le Président. Donc, nous ne soutiendrons pas cette motion de rejet parce que nous estimons qu'il est temps d'avancer maintenant. Moi, je pense qu'il faut être pragmatique et, comme on dit chez nous, peptra zomada zomad dagout. Ce qui veut dire que tout ce qui est bon à prendre. Peptra zomada zomad dagout. Mais il y a des avancées concrètes dans ce texte qui nous permettent, là, sur l'éolien, sur la méthanisation, des choses que nous attendons. Et je crois que c'est peut-être un premier geste, c'est vrai que c'est un peu rapide, mais je crois qu'il faut y aller, et il faut y aller rapidement.
Maîtresse, toute dute ne se tient comprenne. Peut-être que tout le monde n'a pas compris.
Présidait ce soir-là Marc Le Fur, excellent bilingue français-breton, qui a été battu au régional. Je ne sais pas si Le Drian est bilingue, enfin, il parle très bien le hollandais en même temps que le français. Alors, j'aimerais que vous nous exposiez, à partir de ce cas, comment vous, bretonne, sensible certainement à ce que dit Monsieur Le Fur ou à ce que peut dire Monsieur Molac, vous mettez à distance ce qui vient de votre expérience personnelle dans cette affaire.
Dans cette affaire sur les langues régionales ? Comment on arrive à avoir une opinion indépendante, voulez-vous dire ?
Indépendante de soi-même.
Indépendante de soi-même. Alors, tous les Bretons ne sont pas des bretonnants, ou des partisans de l'usage de la langue bretonne dans les actes officiels, d'une part. D'autre part, nous tentons, c'est pas toujours facile, effectivement, de mettre à distance les problèmes qui nous sont posés par rapport à nos convictions personnelles. On est aidé quand même par la collégialité. Nous échangeons, peu de choses sont faites au Conseil d'État avec une seule personne. Il y a donc des débats, des échanges, et nous votons sur les solutions. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous ne sommes pas du tout monolithiques. Il y a des débats où une majorité très large se dégage, et d'autres où il faut passer au vote pour déterminer le camp qui l'emporte. Et donc, ça atténue beaucoup la dépendance vis-à-vis des opinions personnelles. Et il y a aussi un usage constant au Conseil d'État de dialogue entre des sensibilités extrêmement différentes, parce que les provenances des membres du Conseil d'État sont très diverses et que du coup il se produit un rapprochement ou
un travail de laboratoire.
Oui, un petit peu, oui. Ouais. En tout cas, la seule chose sur laquelle on parvient à être d'accord, c'est sur les questions de droit.
Alors, je voudrais qu'on aborde le dossier le plus chaud maintenant. Vendredi, en Assemblée Générale, le Conseil d'État a donné un avis sur le projet de réforme constitutionnelle qui introduirait l'état d'urgence dans la Constitution, modifierait aussi les motifs de déchéance de la nationalité. Vous ne pouvez pas rendre public votre avis, c'est le gouvernement qui le fera quand il examinera le texte en Conseil des ministres. C'est un inconvénient d'ailleurs que les avis ne soient pas rendus publics, parce que du coup, à 8h à France Inter, on entendait un son de cloche sur ce sujet, et à 8h15, un autre.
Oui, d'ailleurs, la publicité des avis du Conseil d'État sur les projets de texte du gouvernement est récente. C'est une décision qui a été prise par le président de la République en janvier de cette année, en janvier 2015. Et c'était d'ailleurs une demande des parlementaires qui souhaitaient savoir quel était l'avis juridique du Conseil d'État sur les projets de loi qu'ils ont à voter. En particulier, s'il y a un problème de compatibilité soit avec la Constitution, soit avec le droit européen, soit encore avec le droit international, par exemple la Convention internationale des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, pardon, ils ont intérêt à le savoir. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Ça n'est publié immédiatement que depuis 2015. Auparavant, on en avait la connaissance par la publication du rapport d'activité qui a lieu au moins un an après. Alors, par contre, c'est le gouvernement qui rend public parce que c'est le choix du gouvernement de rendre public ou de ne pas rendre public. Alors, il y a eu un engagement du président de la République de rendre public tous les avis sur projet de loi, sauf sur les lois de finances, qu'il tient, mais il n'y a pas de texte qui l'y oblige.
Alors, parmi les dispositions qui sont mises en place actuellement, il y a des dispositions sur le renseignement qui suppose un contrôle du numérique. La section du rapport et des études avait l'an passé fait un certain nombre de propositions au gouvernement sur le thème de la liberté et du contrôle du net. Il y a un nouveau mythe qui se met en place chez les journalistes. Il y aurait sur le net, sous le net plutôt, des bas-fonds obscurs, de vrais coupes-gorges, un réseau d'anonymisation, le Darknet.
Nous utilisons une messagerie traditionnelle. Notre courrier électronique porte alors la signature de notre ordinateur, cette suite de 10 chiffres que l'on appelle l'adresse IP. Grâce à elle, la connexion Internet est identifiée et localisée très précisément, ici à Paris. Nous renvoyons ensuite le même email via le Darknet, depuis le même ordinateur et du même endroit. Cette fois, notre signature numérique a changé. Elle indique que nous envoyons ce message via un ordinateur basé à Bucarest, en Roumanie. Comment ce tour de passe-passe est-il possible ?
C'est extrêmement simple, il suffit de télécharger un petit programme, de l'installer et ensuite de se connecter.
Ce programme qui permet de se connecter au Darknet, c'est Tor, The Onion Router.
Tor, c'est un outil ainsi qu'une infrastructure qui permet de communiquer de façon anonyme et d'accéder à du contenu sans qu'on sache qui l'a mis en ligne.
C'était considéré comme un logiciel libre il y a 3 ans. Le regard est en train de changer. Comment un conseiller d'État, comme vous, Marie-Vol de Saint-Pulgen, tient-il compte du danger qui peut se profiler et apparaître et garde la raison dans ce domaine-là, du renseignement et du net ?
Effectivement, il faut concilier deux impératifs. L'impératif de sécurité, qui est très important et qui est d'ailleurs un objectif de valeur constitutionnelle, dit le Conseil constitutionnel. Et puis les libertés, dans lesquelles il y a les libertés numériques, la liberté d'expression, la liberté de communication. Et ce travail de conciliation est au cœur du travail du Conseil d'État dans ce qui est, en tant que juge des libertés publiques, qui doivent être... Donc ça veut dire que toute mesure de police et le renseignement est une mesure de police. C'est de la police administrative, c'est de la prévention de risques, de risques d'atteinte à la sécurité nationale. Donc toute mesure de police limite les libertés. Ça, nous le savons, c'est inhérent à la mesure de police. Mais elle doit le faire de façon proportionnée et adaptée. Et surtout de façon dans le cadre offert par la loi. Et par exemple, nous avions relevé dans l'étude numérique que les techniques numériques de contrôle numérique par le renseignement, les techniques elles-mêmes numériques, n'étaient explicitées et n'étaient autorisées par aucun texte. Donc nous avons recommandé au Conseil d'État, au gouvernement, pardon, de prévoir ces techniques dans la loi, de les autoriser par la loi, de prévoir les objectifs qu'ils doivent remplir et de placer tout cela sous le contrôle d'une instance indépendante.
Une autorité de contrôle dédiée au renseignement. Merci à vous Marie-Yvonne de Saint-Pulgent. Le monde serait idéal, du moins la France, si le Conseil d'État ne parlait qu'au Conseil d'État. C'était un lapsus révélateur que le vôtre à la fin de cette émission réalisée par Jacques Sigal, préparée par Elinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivar, avec à la technique Grégory Wallon. Mathieu Vidard, 14h tout à l'heure.
La tête au carré, de nouvelles voix, Jean, pour la guérison psychique, et je crois que ça va déménager.
Voilà, et Jean-François Marmion est la voix si autorisée de François Roustan. Ce sera dans un instant.